Vous écoutez, on lit pour vous.
Rendre son jeu vidéo accessible plus facile qu'il en a l'air. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 6 août 2024 dans Le Devoir. Le monde vidéoludique est de plus en plus conscient de l'importance de permettre à n'importe qui de jouer à n'importe quel jeu, même si la personne est en situation de handicap. Une adaptation qui peut demander des sacrifices aux développeurs, mais qui, si elle est bien pensée, ne se révèle pas aussi compliquée qu'il n'y paraît. La préparation et l'écoute sont les mots d'ordre d'une accessibilité réussie selon les personnes interrogées par Le Devoir. En matière d'accessibilité, l'industrie a bénéficié de « pierres blanches » dans les dernières années, explique Olivier Nourry, cofondateur du Games Accessibility Hub, une entreprise française qui accompagne les créateurs de jeux à travers le monde à trouver des outils. Des manettes adaptées, créées par Xbox et PlayStation, et des jeux comme The Last of Us Part 2, en 2020, accessibles aux personnes ayant un handicap visuel, ont mis l'accent sur les besoins des joueurs en situation de handicap. Que ce soit de la consultation avec des joueurs handicapés ou du développement de différents paramètres, rendre un jeu accessible demande certaines ressources, avoue M. Nourry. Des besoins en ressources qui sont grandement réduits si le souci de l'accessibilité arrive tôt dans le développement d'un jeu, selon tous les experts interrogés par Le Devoir. Vincent Pressoux, fondateur du studio indépendant québécois Carcajou, donne l'exemple d'un jeu où le personnage se fondrait dans le décor par manque de contraste entre les deux éléments. Une personne qui a une visibilité réduite pourrait avoir plus de difficultés à jouer. Si je dois changer les textures que j'ai déjà créées, c'est sûr que ça va coûter plus cher. Mais si j'avais déjà la pensée de l'accessibilité au début en créant les textures, ça ne change rien parce qu'elles doivent être créées de toute manière, décortique-t-il. Le meilleur exemple de cette manière de procéder est le studio montréalais Chichi. Son fondateur, Frédéric McNamara, est atteint de la dystrophie musculaire de Duchenne qui entraîne une dégénérescence des muscles, rendant l'accès aux jeux vidéo nécessitant une motricité plus fine difficile. C'est dans l'optique de créer des jeux ambitieux qui sont accessibles à tous qu'il a fondé les studios Chichi. L'accessibilité est la première question que l'on se pose, soutient-il. Le premier jeu des studios Chichi, Timeless Prelude, se joue tour à tour et avec le moins de boutons possible pour que les joueurs puissent prendre le temps dont ils ont besoin. La majorité des jeux utilisent une grande quantité de touches et de combinaisons entre elles, mais au minimum, la capacité de personnaliser ces contrôles devrait être incluse dans tous les jeux, note M. McNamara. Difficulté et accessibilité. Fred Fortin, qui est atteint d'arthrite et de sclérose en plaques, ce qui rend difficile la prise d'une manette avec sa main droite, priorise systématiquement la fonction facile pour être capable de jouer. « Il y a des jeux auxquels je voudrais jouer, mais ils demandent des actions trop rapides et je ne suis pas capable. Quand c'est plus facile, je peux plus prendre mon temps et je suis capable de jouer. » Simon Faneuf, qui est atteint de paralysie cérébrale qui affecte surtout ses mains, a en quelque sorte fait son deuil des jeux plus difficiles. « J'ai réalisé qu'il y a des jeux qui ne sont pas pour moi, et c'est bien correct aussi, » dit-il. Cela ne l'empêche pas de rêver à un futur où il serait possible pour lui d'y jouer. Je sais que les développeurs peuvent parfois être pris entre deux chaises et qu'ils ne veulent pas dénaturer leur jeu, mais ça pourrait être intéressant de trouver un compromis pour que le jeu soit plus accessible. Ancestors, The Humankind Odyssey, développé par le studio québécois Panache, ne permet pas de régler le niveau de difficulté. Selon Étienne Beaulieu, directeur de l'expérience utilisateur, le désir était de créer un jeu où les joueurs apprennent les rudiments de l'évolution, frustration et écueil compris. Même si cela signifiait de ne pas rendre le jeu accessible aux personnes pour qui la motricité fine est un obstacle, des fonctionnalités qui n'affectent pas la difficulté, comme une visualisation du son, ont été créées. Olivier Nourry du Games Accessibility Hub confirme que la relation entre difficulté et accessibilité est un sujet très controversé dans le monde vidéoludique. Selon lui, tant qu'un jeu se joue seul, l'expérience de chacun devrait être personnalisable. C'est lorsque les jeux deviennent multijoueurs ou compétitifs que des problèmes peuvent survenir. Il ne faut pas que ça crée un avantage pour certaines personnes, stipule-t-il. Il cite en exemple le jeu de tir Fortnite, dans lequel une fonction permet de visualiser les sons et leur provenance avec des icônes apparaissant sur un rond entourant le joueur. Un paramètre conçu pour les personnes malentendantes, mais qui est utilisé par beaucoup de joueurs pour gagner un certain avantage. Autant Fred Fortin que Simon Faneuf ont dû rayer les jeux de tir en multijoueur de leur liste. Je vais y jouer plus dans un but récréatif plutôt que compétitif parce qu'au niveau de la compétition, c'est impossible pour moi. Les gens appuient trop vite. Je me tanne vite, précise ce dernier. Bien rendre accessible. Timothée Loncio, qui a cofondé le Games Accessibility Hub avec Olivier Nourry, résume qu'une bonne accessibilité, ça demande surtout des connaissances et un peu de curiosité. Le principal frein, c'est le manque de connaissances et peut-être une méconnaissance du handicap. Une de ces méconnaissances principales, le fait que beaucoup de gens vivent avec un handicap et que l'importance du handicap varie énormément d'une personne à une autre. Une grande partie de la population vit avec un handicap et tout développeur veut que son jeu soit joué par le plus de personnes possible, exprime Olivier Nourry. Dans ce désir d'atteindre le plus de gens possible, les studios indépendants ne sont pas nécessairement désavantagés. Leur grand avantage, c'est que souvent, ils ont de plus petites équipes. Par conséquent, c'est moins compliqué à organiser. Souvent, les jeux aussi sont moins grands, donc il y a un meilleur contrôle sur le jeu, explique David Tisserand, responsable de l'accessibilité chez Ubisoft. Au contraire, de plus gros studios, comme Ubisoft, disposent de plus grandes ressources et chaque avancée que l'on fait sur un jeu, on peut l'utiliser après sur chaque jeu de la compagnie, indique M. Tisserand. L'accessibilité, ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est un processus cumulatif. Ça ne va que s'améliorer au fil des ans, stipule pour sa part Timothée Loncio. Le cas de Gut Feeling. Gut Feeling est un jeu actuellement en développement au studio Carcajou. On y incarne un détective qui a perdu la vue et a développé un sixième sens qu'il utilise pour résoudre des mystères. Il a été conçu pour être entièrement jouable par des personnes vivant avec un handicap visuel et, pour y parvenir, des sons et des vibrations seront la principale manière de communiquer de l'information. Au départ, il n'y avait aucun élément graphique, mais en discutant avec des personnes malvoyantes, on a compris que c'était un large spectre, indique le fondateur du studio Vincent Pressot. On a donc rectifié le tir pour en faire un jeu qui n'est pas toujours axé sur le visuel. Toutefois, en retirant l'élément visuel, Gut Feeling devient inaccessible aux personnes malentendantes. Dans ce cas-ci, en voulant inclure un groupe marginalisé, on en exclut un autre, exprime le fondateur de Carcajou. Quand on enlève le son, on est obligé d'avoir du visuel, et inversement. C'était rendre son jeu vidéo accessible plus facile qu'il n'en a l'air. Un texte de Léo Mercier-Ross, paru le 6 août 2024 dans Le Devoir.
Le compostage, finalement de la partie. Un texte de Charles-Éric Blais-Poulin, paru le 14 juillet 2024 dans La Presse. Pressés par des pétitions, des actions citoyennes et des lettres ouvertes, le marché public Jean Talon s'est finalement doté d'installations de compostage, avons-nous constaté, lors d'une visite en compagnie du directeur général. Les marchés Maisonneuve et Atwater emboîteront le pas. Au mois de novembre 2023, la presse avait révélé que des tonnes de fruits et de légumes, qu'ils soient encore comestibles ou pas, atterrissaient chaque semaine dans les conteneurs à déchets du marché Jean Talon, faute de bacs de compost à la disposition des marchands. Depuis la parution de l'article, l'Association québécoise Zéro déchet et l'organisme Mère au front ont multiplié les gestes pour que la situation soit corrigée. Des militantes s'étaient notamment rendues au marché de l'avenue Henri-Julien au mois de mai 2024 pour sensibiliser les clients à une situation de gaspillage qu'elles jugeaient inadmissible. Voilà que 17 bacs bruns ont officiellement fait leur entrée dans la principale salle des déchets, une première phase dans l'attente d'infrastructures mieux adaptées aux matières organiques, par exemple en ce qui concerne la réfrigération. La pression a monté, oui, mais en même temps, tout le monde comprend les défis. Souligne Nicolas Fabien Ouellette, directeur général des marchés publics de Montréal, en nous présentant les nouvelles installations. Ce qui est beaucoup ressorti des discussions, ajoute-t-il, c'est l'apport que les marchés publics peuvent avoir dans le système alimentaire, mais aussi dans le « manger autrement », dans l'idée d'être le plus zéro déchet possible. C'est clair que c'est en adéquation avec nos valeurs. Le nouveau système de tri imposé depuis le début de l'été 2024 à la centaine de marchands est clairement énoncé sur une imposante affiche. L'étape prioritaire est de remettre les fruits et légumes invendus à l'organisme de récupération alimentaire La Récolte Engagée, qui redistribue les denrées à la communauté. Tous les excédents et les restes qui ne sont pas comestibles doivent désormais être dirigés vers les bacs de compost et non vers le conteneur à déchets. Les marchands qui ne respectent pas les règles de tri s'exposent à une amende de 500 $. Ce système de collecte doit être répliqué au marché Atwater. Il a reçu 7 bacs de compost et bénéficie de la récupération alimentaire de l'organisme Partageons l'espoir, et au marché Maisonneuve, où la gestion des matières organiques fait l'objet de discussions avec la Ville de Montréal. Le but, à terme, est d'éliminer complètement le gaspillage alimentaire dans les marchés publics de la métropole, explique leur directeur général. Jusqu'à ce jour, quelques 330 tonnes de déchets organiques générés par le marché Jean Talon prenaient le chemin du dépotoir chaque année. La presse avait constaté, lors d'une visite en novembre 2023, que des fruits et légumes étaient jetés alors qu'ils étaient encore aptes à la consommation. Le marchand, Jérôme Arlabosse, de la crêperie du marché, dénonçait l'inertie de l'administration dans le dossier. Contraintes logistiques et commerciales. En matière d'éducation publique, l'institution inaugurée en 1933 a été prompte à promouvoir le compostage, par exemple par l'entremise d'ateliers dès 2008 et par la distribution de milliers de sacs de compost gratuits année après année. Pourquoi la direction a-t-elle attendu si longtemps avant de montrer l'exemple? En raison de contraintes logistiques et commerciales, selon Nicolas Fabien Ouellette. Le haut lieu de l'économie sociale ne cadre pas avec la collecte sélective des matières organiques de la Ville de Montréal, tandis que les fournisseurs privés ont tardé à trouver une solution de rechange satisfaisante, explique-t-il. C'est finalement l'entreprise Matrec qui a pu répondre aux besoins spécifiques du marché quatre saisons. Le fournisseur, précise-t-il, apporte des bacs propres et secs et il repart avec les bacs pleins pour les traiter et les rapporter à la collecte suivante. C'est un système qui réduit la gestion pour nous et qui garantit des installations propres et sécuritaires. Grâce à un financement de la Ville de Montréal, l'administration s'est adjoint les services du cabinet environnemental Stratzer pour sensibiliser et aiguiller les marchands à l'égard des nouvelles consignes. Un premier pas. Outre la réfrigération des salles et l'installation de compacteurs, un prochain volet consistera à offrir une option de compostage aux clients contraints de jeter leurs résidus de table, un défi dans le traitement de la matière, soutient le patron des lieux, Nicolas Fabien Ouellette. En compagnie d'autres militantes, Nathalie Hainsley, présidente du conseil d'administration de l'Association québécoise Zéro déchet et membre de Mère au front, a rencontré la direction du marché Jean Talon et a eu droit à une visite des nouveaux équipements de compostage. Tout en soulignant que les deux organismes vont veiller au suivi des prochaines étapes, elle salue l'ouverture de la direction. Le dénouement positif, dit-elle, est une preuve que l'action collective paie. Le dossier du compostage était quelque part dans les priorités, mais on sent qu'il est revenu sur le dessus de la pile. L'article de la presse et notre mobilisation ont beaucoup accéléré les choses. On en est bien fiers. C'était le compostage finalement de la partie. Un texte de Charles-Éric Blais-Poulin, paru le 14 juillet 2024 dans La Presse.
Une autre victime présumée du mari d'Alice Monroe souligne qu'il faut écouter les enfants. Un texte de La Presse canadienne, paru le 7 août 2024 sur Ici Windsor. La deuxième femme a accusé publiquement le défunt mari de l'écrivaine canadienne Alice Monroe d'avoir eu des comportements sexuels inappropriés avec elle, espère que son histoire encouragera les parents à croire leurs enfants. Jane Murray avait 9 ans lorsque, soutient-elle, Gerald Fremlin s'est exhibé nu devant elle alors qu'il séjournait dans la maison familiale à Toronto plusieurs années avant son mariage avec Mme Monroe. Avertissement. Le contenu de cet article pourrait choquer certaines personnes. 55 ans plus tard, elle a décidé d'en parler publiquement pour la première fois, après avoir appris récemment que M. Fremlin avait ensuite agressé sexuellement l'une des filles d'Alice Monroe, Andrea Robin Skinner, alors qu'elle avait elle aussi 9 ans. Jane Murray, aujourd'hui âgée de 64 ans, souligne que son histoire est très différente de celle d'Andrea Robin Skinner. Le mois dernier, Mme Skinner a décrit dans un texte publié dans le Toronto Star comment, pendant des années, après que M. Fremlin l'eut agressée, elle était renvoyée chez sa mère chaque été et continuait d'être victime de son agresseur. La décision de sa mère de rester avec M. Fremlin, après avoir appris ce qu'il faisait à sa fille, a terni l'héritage de l'une des écrivaines canadiennes les plus célèbres. Alice Monroe est décédée à l'âge de 92 ans en mai dernier, avant la dénonciation de sa fille. Or, Jane Murray raconte que la seule fois où M. Fremlin s'en est pris à elle, sa mère l'a immédiatement chassée de la maison et la fillette ne l'a jamais revue, jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Avec le recul, elle souligne qu'elle ne se sent pas particulièrement traumatisée par cet événement. Justice totale. Je n'ai jamais grandi avec le sentiment d'avoir fait quelque chose de mal, a déclaré Jane Murray. J'avais l'impression d'avoir totalement obtenu justice parce qu'on m'a cru tout de suite. Madame Murray, qui a raconté son histoire pour la première fois au Toronto Star, espère que sa décision de dénoncer publiquement aidera d'autres parents à comprendre à quel point il est important d'agir de manière décisive dans ces cas-là.
au-delà de la renommée d'Alice Munro, au-delà de tout, si quelque chose arrive et que votre enfant vous le dit, croyez-le et agissez en conséquence, confie Jane Murray. Ce n'est qu'après la publication de l'essai de Mme Skinner qu'on a appris que M. Friendlin, décédé en 2013 à l'âge de 88 ans, avait plaidé coupable en 2005 à l'accusation d'attentat à la pudeur contre sa belle-fille. Un peu comme un oncle. Gerald Friendlin était un très bon ami des parents de Jane Murray. La sœur aînée de Jane Murray, Marianne Webb, a raconté que Gerald Friendlin rendait souvent visite à sa famille et qu'elle ne se souvient pas d'une époque où il n'était pas ami avec ses parents. Lors d'une visite de Gerald Friendlin en 1969, Jane Murray, âgée alors de 9 ans, est entrée un matin dans sa chambre pour lui demander ce qu'il voulait au déjeuner. Elle raconte qu'il a alors relevé la couverture et s'est exhibé nu devant l'enfant. Choquée, la fillette a quitté la pièce et a commencé à préparer le gruau. Elle raconte que M. Friendlin l'a ensuite suivi jusqu'à la cuisine et lui a dit « Je n'aurais pas dû te montrer ma... » Je n'avais jamais entendu des adultes parler de cette façon ou utiliser ce genre de mots, dit-elle aujourd'hui. Mes parents utilisaient des termes anatomiques. Mais M. Friendlin a continué, se souvient-elle. Puis il a dit « Ok, alors tu m'as vu. Peut-être que tu aimerais me montrer, toi. » À ce moment-là, elle dit qu'elle a quitté la pièce et a réveillé sa mère pour lui raconter ce qui s'était passé. « Ma mère est devenue folle de rage », a-t-elle déclaré. Elle a immédiatement fait sortir les filles de la maison et les sœurs ont attendu au coin de la rue jusqu'à ce qu'elles voient la voiture de M. Friendlin partir. « À leur retour à la maison », a déclaré Mme Murray, « ses parents lui ont dit que M. Friendlin ne reviendrait plus jamais à la maison. » Après cela, ils n'en ont plus jamais reparlé. Il a eu l'air terrifié. Jane Murray n'a revu Gerald Friendlin que près de deux décennies plus tard, lors du lancement d'un livre d'Alice Munro. L'écrivaine avait épousé M. Friendlin 10 ans plus tôt. Je me suis approché de lui et je lui ai dit « Vous ne me reconnaissez probablement pas, mais je suis Jane Webb. » Et il a juste eu l'air terrifié, confie Jane Murray. Jane Murray n'a pas parlé avec Andrea Robin Skinner, qui a été agressée par M. Friendlin plusieurs années après elle. Mais elle a déclaré qu'elle s'est toujours demandé s'il avait fait d'autres victimes et si quelque chose aurait pu arriver à l'une des filles d'Alice Munro. Des années après les événements de 1969, alors que Jane Murray était adulte, sa mère a renoué avec Gerald Friendlin. À ce moment-là, a-t-elle dit, la relation avec sa mère était tendue et elle ne lui a jamais parlé de cette retrouvaille qui a été de courte durée. En fin de compte, cependant, elle est reconnaissante envers sa mère d'avoir fait la bonne chose sur le moment, surtout lorsqu'elle compare son expérience avec celle d'Andrea Skinner. C'était une autre victime présumée du mari d'Alice Munro souligne qu'il faut écouter les enfants, un texte de la presse canadienne paru le 7 août 2024 sur Ici Windsor.
La recette du pique-nique parfait. Un texte commandité paru le 29 juillet 2024 dans la presse. À vos paniers, c'est l'heure de pique-niquer. Que vous préfériez poser votre nappe dans un parc, au cœur de la forêt ou sur la plage, voici tout ce dont vous avez besoin pour savourer pleinement les joies de manger en nature. Un panier à pique-nique. Voilà un incontournable pour casser la croûte sans vous casser la tête. Équipé de tous les essentiels, couverts, verres, tire-bouchons, serviettes de table, salières et poivrières, le panier à pique-nique facilite les repas pris sur le pouce. Un autre avantage non négligeable, il permet aussi de faire un pied de nez à la vaisselle jetable. Si vous êtes de nature à opter pour les formules clés en main dans la vie, choisissez un modèle qui comprend une couverture. Un menu simple. Au menu, la simplicité est de mise. Mini-quiche, sandwich roulé, salade en pot, boule d'énergie, muffin salé. Les aliments en portions individuelles ont toujours la cote. Vous préférez les formules à partager? Misez sur un sandwich géant. Ou encore, préparez un plateau gourmand en déposant sur une planche à découper une montagne d'aliments à grignoter. Pour empêcher les mouches et d'autres insectes de tourner autour de la nourriture, il peut être utile d'apporter un filet de protection en maille pliable. Du confort. L'été, il n'est pas toujours facile de trouver un coin ombragé dans les parcs, alors mieux vaut prévenir le coup en apportant un chapeau à large bord ou mieux encore, un parasol de plage. Les couvertures sont également fort appréciées en pique-nique. Elles pourront à la fois vous servir de nappe, de tapis de sol ou de petite laine si la soirée est fraîche. Certains modèles conçus pour l'extérieur sont même munis d'un côté imperméable, ce qui s'avère pratique si la pelouse est humide. Des rafraîchissements. Pensez à vous hydrater. Plutôt que de partir à la recherche de la fontaine la plus près, prévoyez une sélection de rafraîchissements. Cocktail prêt à boire en canette, eau pétillante, kombucha, et apportez plus d'eau que vous pensez en avoir besoin. Il est également conseillé d'avoir sous la main un ou deux sacs de glace pour garder les boissons de tout le monde au frais. Des jeux. Un pique-nique parfait ne saurait être complet sans divertissement. Outre l'incontournable disque volant, il existe une foule de jeux portatifs permettant d'amuser jeunes et moins jeunes. Quilles finlandaises, raquettes de plage, tic-tac-toe géant. Il n'y a rien de mieux qu'une petite séance de jeu pour vous dégourdir les jambes après le repas. C'était la recette du pique-nique parfait. Un texte commandité paru le 29 juillet 2024 dans La Presse.